bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer ce matin. Alors c'est une grande joie hein, d'être parmi vous. C'est la première fois que nous venons dans cette église. C'est une grande joie d'avoir pu louer le Seigneur ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas là au début... super, merci. Je m'appelle Luc-Antoine Regard, comme on vient de le dire. Je suis le frère de Lucie, grand frère. Et je suis venu donc avec mon épouse Aurélie, puis nos quatre enfants, il y a Kélia, Noam, Alissa et Tobias. Et voilà, merci de nous accueillir ce matin. Alors, j'ai vu que quand je prends plein de feuilles comme ça, là, il y en a qui commencent un peu à se stresser en disant « ça risque d'être très long ». Le prédicateur, il a beaucoup de feuilles. Alors, en fait, c'est pas ça. C'est que j'imprime en grand parce que j'ai passé les 40 ans. Je devrais porter des lunettes pour lire. Mais j'ai pas encore les 45, alors j'assume pas. Du coup, j'imprime en gros caractère. Voilà, donc c'est juste ça. Je voudrais partager un peu sur l'église ce matin. Je précise quand même, donc mes yeux sont un peu paresseux, pas ma langue. Donc si vous n'êtes pas habitué, je parle assez vite. Mais si à un moment ça va trop vite, vous me faites signe. Voilà, vous levez la main comme ça, là je comprendrai que ça va trop vite et je ralentirai. Je vais vous regarder quand même. Hein. On a chanté beaucoup de beaux chants, hein, c'était très chouette ce matin. Et on a chanté entre autres un chant Alléluia, où on dit « c'est pour moi que Christ est mort ». Et d'abord c'est vrai, et ensuite c'est beau, mais c'est pas complet. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Alors si je vous laissais là avec cette question, une feuille de papier, un stylo, vous en écrirez. Hein. Y a une des réponses qu'on oublie souvent et que j'aime bien dans l'évangile selon Jean au chapitre 11. Comme ça, par cœur, est-ce qu'il y en a qui pourrait le dire? Voilà. Réunir en un les enfants de Dieu. Parce que moi, j'ai toujours entendu ça, d'abord, quand j'étais enfant. Ben, Jésus, il est mort. Il est mort pour toi, pour tes péchés. Oui, mais là, il dit autre chose. Il dit, en fait, Jésus, il est mort pour réunir les enfants de Dieu. Il est mort pour une famille. Il est mort pour l'Église. Pour réunir l'Église. Et c'est de ça que je voudrais parler ce matin. Alors, oui, ça marche bien en plus, il y a le texte en face. Je vais lire d'abord un texte, donc le texte que peut-être vous pourrez retenir ce matin. Dans Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. « Et j'entendis, comme la voix d'une foule immense, elle ressemblait au bruit des grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Qui c'est là qui donc là c'est vraiment la fin de la Bible et on voit Jésus dans la gloire et c'est vraiment Jésus bien sûr le personnage principal mais là il y a un autre personnage qui est-ce? Alors je vous aide un peu avec les images hein. Oui, il y a un autre personnage qui est glorieux, il y a l'épouse. Qui est cette épouse? L'Église. Et alors, nous on imaginait bien la fin de la Bible et moi dans la gloire. Le centre. Et en fait, c'est pas ça qu'on voit. On voit donc Jésus, bien sûr, et on voit l'Église. L'Église habillée d'un fin lin éclatant et pur. Et l'Évangile, il n'est pas centré sur l'individu. C'est un fait. Même la Bible entière, hein, c'est cohérent du début à la fin, c'est le peuple de Dieu. Et ça heurte la pensée de notre temps. Parce que la pensée de notre temps, elle est centrée sur l'individu. Mais la Bible, non. La Bible, non, parce que Dieu n'est pas centré sur l'individu. On pourrait dire Dieu, il se constitue un peuple. Dieu, il réunit. Le Seigneur est mort pour réunir. Alors, je voudrais qu'on voit ça ce matin. Alors, en quatre parties. Regardez un peu quel est ce plan de Dieu dans l'épître aux Éphésiens. Un parcours très rapide. Ce que ça heurte à l'ère de l'individualisme. Et puis juste deux points, vous en retiendrez un seul des deux, mais voilà, comme une info pour tous. Ma place dans ce corps, et puis quand ça va pas bien. Alors, le plan de Dieu, c'est l'Église. L'apothéose, c'est pas moi dans la gloire, c'est Jésus dans la gloire, rehaussé par la beauté de son épouse. Et donc, alors le livre à lire pour ça, que je vous recommande, c'est l'Épître aux Éphésiens. Mais comme voilà, le temps est limité, vous la lirez chez vous et vous verrez, hein, c'est vraiment ça le thème. Et je vais lire quelques extraits. D'abord, un texte sur lequel je vais insister, c'est dans Éphésiens 5. Donc je lis quelques extraits, hein, je saute des parties qu'on relira un peu. Éphésiens 5, verset 25. Le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Personne ne s'est jamais haï lui-même. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ fait pour l'Église. Alors ce passage, on le connaît, il parle des relations entre mari et femme. Et des relations entre Christ et l'Église. Et on ne sait pas, en définitive, l'apôtre, qu'est-ce qu'il utilise pour mettre quoi en valeur, en fait, des deux. C'est un peu, est-ce qu'il utilise l'image, est-ce qu'il parle de la relation entre mari et femme, mais c'est surtout pour montrer la beauté de la relation entre Jésus et l'Église, ou est-ce que c'est le contraire? C'est un peu les deux, hein. Je continue dans l'Épître aux Éphésiens, et je vais faire quelques lectures. Chapitre 1, verset 21. Ça commence. Alors, il faudrait lire, j'aurais dû lire au début chapitre 1, voilà, parce que c'est un ensemble, qui est un très très beau texte, et qui continue comme ça, verset 21. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination, de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ, et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Lui qui remplit tout l'univers. Il est pleinement présent dans l'Église. C'est ça que dit le texte. Ça me pose un petit peu, hein, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, l'Église. Dans l'Église, le Christ est pleinement présent. Et je vais plus loin, chapitre 3, je lis au verset 9. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, et c'est moi qui ai mis en gras, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, ce passage qui vient un peu conclure, hein, quelque part ce qui est au-dessus, qui révèle le plan de Dieu. Mais il dit quoi? Il dit voilà, il y a ce plan de Dieu. Hein, eh bien, Dieu l'a caché depuis toujours. Et maintenant, c'est grâce à l'Église. C'est l'Église qui montre le plan de Dieu pour la terre, à notre époque, maintenant. C'est l'Église qui montre ce plan. C'est l'Église, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire c'est nous, bien sûr. Mais ça veut dire c'est nous ensemble. Nous ensemble. Et c'est ce que Dieu a choisi. Et ces textes, ils insistent un peu sur le choix de Dieu. On se dirait, c'est un choix peut-être bizarre, contestable, voilà, mais en tout cas, c'est le choix de Dieu. Dieu a choisi que c'est par l'Église qu'il montre sa gloire, qu'il montre sa sagesse, surtout. Là, hein, il parle de la sagesse. C'est ainsi. C'est son projet éternel. Éternel, ça veut dire que ça va à la suite du reste. En fait, Dieu s'est choisi un peuple, et au départ, il y avait l'appel du peuple d'Israël. Mais voilà, on est dans cette continuité. Et voilà, par l'Église, Dieu montre son plan. C'est l'Église qui reflète sur la terre la gloire de Jésus. Et Dieu voit l'Église belle. Et Dieu rend l'Église belle. On connaît bien cette parole de Jésus dans l'évangile selon Jean aussi. Hein. C'est à l'amour que nous avons entre nous que le monde il verra Jésus. Non pas à l'amour que j'ai moi et que je témoigne à mes voisins, etc. Peut-être, oui, bien sûr, un peu. Mais d'abord, c'est à l'amour que vous avez entre vous. Alors si moi je dis que j'aime Jésus, mais que je n'aime pas l'Église, je ne dis pas la vérité, tout simplement. C'est que je n'aime pas Jésus. On ne peut pas ne pas aimer Jésus et ne pas aimer, aimer Jésus et ne pas aimer l'Église. Ça, c'est pas possible. Ou alors, c'est un Jésus de mon imagination que j'aime. Et je dois aussi admettre une chose, pour terminer avec cette partie. Ah ben, c'est le plan de Dieu, il a voulu comme ça. Mais je dois avoir cette foi que le plan de Dieu est bon. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses qui me dérangent tellement, notamment justement par rapport à l'Église, que je dois par la foi dire oui, le plan de Dieu est bon. Et je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu. Alors, je vais mettre un point maintenant juste sur pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Parce que on est à une époque vraiment où l'individu est toujours mis au centre. Alors, je vais reprendre un peu. J'ai lu dans Éphésiens 5, les maris doivent aimer leur femme comme ils aiment eux-mêmes, en fait. Hein. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et il dit, personne n'a jamais haï son propre corps. Personne ne s'est jamais haï lui-même. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Alors, l'individualisme, il dit, là, d'abord, c'est pas nouveau. Déjà, à son époque, il dit, tout le monde s'aime soi-même. Et il dit, on prend soin de soi. Donc déjà, à l'époque, hein. Mais le texte, quelque part, alors il parle là de les maris doivent aimer leurs épouses, comme ils s'aiment eux-mêmes. Voilà, quelque part, c'est un peu audacieux, hein, ce qu'il met. Peut-être qu'on aurait pas osé cette comparaison pour parler de voilà, le plus grand amour, ben, regardez comment vous devez aimer votre femme, il dit. Hein. Il dit, c'est comme ça que Jésus aime son Église. On va mettre la barre très haut, très très haut. Et là, on s'attend à un truc incroyable. C'est comme vous vous aimez vous-même. C'est une affirmation de Dieu. Hein. Dieu, il dit, mais vous vous aimez vous-même. Peut-être que vous avez une mauvaise image de vous, que vous ne vous trouvez pas aussi bien que ce que vous voudrez, etc. Peut-être que vous avez une mauvaise appréciation de vous, mais vous vous aimez. Et si vous aimez les autres autant que vous aimez vous-même, ben alors c'est... J'ai mis cette image du bon samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain? Est-ce qu'il y en a qui la connaissent pas? Je la reprends un petit peu. Le bon samaritain, c'est une histoire que Jésus raconte. Parce que il y a un espèce de la loi qui dit donc dans les premiers commandements, il faut aimer son prochain comme soi-même. Mais qui est mon prochain? En fait, derrière cette question, qui est mon prochain? Il veut dire, qui est-ce que je dois aimer? Mais en fait, il y a déjà une idée derrière la tête, c'est que, en fait, on ne peut aimer que les gens qui sont sympas et surtout que je fréquente dans ma catégorie. Autrement dit, c'est normal que j'aime mes frères et sœurs ici, qui sont là et qui sont bien sympas, et c'est normal que je n'aime pas mon voisin qui est infect. Voilà, c'est ça l'idée qui est derrière dans cette histoire. Et Jésus, il raconte l'histoire, une histoire en fait d'un homme qui va, voilà, être attaqué par des brigands et devant qui les gens religieux vont passer de façon indifférente. Mais qui va être secouru par donc le samaritain, le bon samaritain, c'est-à-dire un étranger, quelqu'un qui n'aurait même pas dû s'approcher de lui. Et donc voilà, donc Jésus raconte cette histoire. Parce qu'en fait, ce qu'il veut dire, il veut dire aux gens qui sont là, ben en fait, vous devez aimer votre prochain, et votre prochain, ben c'est celui qui est avec qui vous trouvez en contact. Mais ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de parler. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de parler. Voilà, c'est comme ça. Donc Jésus il raconte ça pour mettre un peu les choses à leur place, en fait par rapport à une façon de tordre les écritures pour dire oui le Seigneur dit d'aimer son prochain comme soi-même, mais mon prochain moi c'est pas celui qui habite à côté de moi, mon prochain c'est celui qui me ressemble. Et notre génération elle a aussi beaucoup tordu ces paroles de Jésus, les paroles de Dieu, hein, qui sont déjà dans l'Ancien Testament quand il dit aimer son prochain comme soi-même.
Alors moi j'ai entendu et lu des centaines de fois et je suis sûr que je ne vous apprends rien. Ah oui, alors je dois aimer mon prochain comme moi-même. Donc je dois beaucoup m'aimer moi-même d'abord. Je me concentre d'abord là-dessus. Je dois beaucoup m'aimer moi-même et ensuite comme ça je pourrai beaucoup aimer mon prochain. Et en fait donc du coup on s'arrête à la première partie, enfin la deuxième partie qui est voilà. Je dois aimer moi-même. Mais en fait c'est pas ça que le Seigneur il dit. Il dit je dois aimer, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Sous-entendu de toute façon vous aimez vous-même. Et là moi je veux pas que vous me répondiez que non vous ne vous aimez pas beaucoup. Parce que Dieu lui-même, dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, il affirme que tout le monde, il dit personne ne s'est jamais haï lui-même. Tout le monde s'aime. Alors des fois, il y a des confusions entre l'estime de soi, par exemple, et l'amour pour soi. Il y a des gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, et ça les rend tristes. Et c'est normal que ça les rend tristes, puisqu'ils s'aiment eux-mêmes. Ils sont tristes de pas avoir beaucoup d'estime pour eux-mêmes. Voilà, bon, effectivement, c'est dommage. Mais ce que je veux dire par là, je ne veux pas faire de la psychologie, je ne veux pas m'approfondir ça, je veux simplement dire une chose. En fait, vous vous aimez vous-même. Donc vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur cette partie-là, il faut se concentrer sur la suite. Aimer son prochain comme soi-même. Mais en tout cas, pourquoi je prends ça? Parce qu'en fait, nos pensées, elles sont, et je dis les vôtres comme les miennes, hein, nos pensées, elles sont complètement déformées. À cause de la société dans laquelle on vit. Et ça a toujours été comme ça, et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. C'est pour que chaque fois, on reformate nos pensées. On est autant influencé par femme actuelle que par la Bible. Du coup, voilà. Mais, c'est pour mettre les choses à leur place. Le Seigneur va nous appeler à aimer nos prochains. Mais on s'aime déjà nous-mêmes. Et je dis ça par rapport à l'église, parce que du coup, ce que ça donne comme influence, ça donne, ben, je vais chercher une église où je vais m'épanouir. Parce que ça donne une idée à la tête, le but de l'église, c'est quoi? Et c'est de fortifier le chrétien. C'est pas complètement faux, hein. Mais c'est pas complètement vrai non plus. Alors je vais chercher une église où je vais me sentir bien. Voilà, ça c'est un truc de notre temps. Faut se sentir bien. C'était dans le ressenti. Voilà. Je me sens bien là. Et puis j'apprends des bonnes choses. Et puis le pasteur, il donne des bonnes prédications. Et donc ça, c'est bien pour moi. Voilà. Et puis en plus, les moments de louange me portent. Si on dit ça, hein. Le moment de louange me porte. Je critique pas ça. Hein. C'est vrai que l'église, c'est aussi pour ça. Et c'est bien d'avoir des chouettes moments de louange. Et c'est bien d'avoir des bonnes prédications. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a problème parce que quand justement on focalise que là-dessus, en fait, on se trompe et on dit l'Église a été faite pour moi. En fait, non. L'Église elle est pour le Seigneur. Et moi je suis pour l'Église et c'est pas l'Église qui est pour moi. C'est là où il y a un problème. Est-ce que vous voyez la différence? Concrètement, ce que l'Église m'apporte, c'est important, mais c'est pas plus important que ce que moi j'apporte à l'Église. Voilà, c'est le Seigneur qui constitue son Église, et moi j'en fais partie. Et peut-être que ce qui pourrait m'aider, je pourrais me dire de voir l'Église comme Jésus la voit. Et on a lu ces textes hein, qui parlent de l'amour qu'a le Seigneur Jésus pour son Église, comment il la voit belle et il la rend belle. Donc ne pas être centré sur soi par rapport à l'Église. Qu'est-ce que ça m'apporte? J'y vais plus parce que là, quand c'est lui là qui prêche, ça m'apporte pas grand chose. Les gens ils sont pas super sympas, les gens ils sont plus sympas au club de tarot. Et du coup, je continue avec toujours dans les Éphésiens. Mais alors, quelle est ma place dans l'église? Puisque l'église elle n'est pas faite pour moi, c'est moi qui suis fait pour l'église. Mais alors, quelle est ma place? Je lis dans Éphésiens 4. J'espère que je vais vous donner au moins une chose, l'envie de lire l'Épître aux Éphésiens d'une traite. Éphésiens 4, il parle, donc il dit, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il parle des dons. Fait. Chacun de vous a des dons. Je vais un peu plus loin, je vais au verset 12. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. Verset 16. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Il dit quoi ce texte ? Il dit « Dieu a réparti des dons. Chacun de vous a des dons particuliers, certainement plusieurs. Ces dons, ils sont utiles. Dieu vous les a donnés parce qu'ils sont utiles pour rendre le peuple de Dieu apte à accomplir son service, pour faire grandir le corps de Dieu, le corps de l'Église. Et c'est comme ça qu'on va tous grandir les uns par les autres. Le corps, il va être bien uni, bien solide. Et chaque partie va bien fonctionner pour que le corps se développe par l'amour. Voilà ce que dit ce texte. Alors, le corps, je ne vais pas me trop m'étendre de cette image, vous l'avez souvent entendu. Vous savez comment est un corps humain. Il y a plein de parties très différentes. Mais en fait, elles sont toutes utiles. Donc ça c'est l'épître corinthien qui dit ça, mais je peux pas dire si mon oreille elle se dit ça c'est vraiment, je suis vraiment importante quoi, c'est moi seul qui entends. D'ailleurs le pied il entend rien, alors pourquoi on s'est encombré de pieds? Mais en fait mon oreille elle se rend pas compte que s'il n'y avait pas les pieds elle serait toujours au même endroit. Et c'est ainsi que fonctionne le corps. Nous on se rend pas compte de l'intérêt de certains dons, mais en fait le Seigneur qui a une vue globale se rend compte. Et donc c'est pour ça que chacun de vous est vraiment important, à condition d'être dans l'action, évidemment. Si l'oreille se bouche, elle ne sert plus à rien. Ou si le pied décide de ne plus marcher, il ne sert plus à rien. Mais ça veut dire que si je suis absent, je décide de plus venir aux réunions de rencontre de l'Église, je vais manquer aux autres. Il y aura un organe qui n'a pas fonctionné. Mais de même, si c'est mon frère qui est absent, il va manquer. Et ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Je pensais, peut-être vous avez déjà entendu aussi cette image des charbons. C'est pas grave, peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas entendu, je la reprends. Quand il y a des braises qui sont bien enflammées, là, on va faire un barbecue, si elles sont toutes serrées les unes contre les autres, elles restent toutes bien chaudes, bien enflammées. Mais s'il y en a une qui s'en va, qui est toute seule, isolée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va se refroidir. Et c'est ainsi pour les chrétiens. Quand on reste les uns après les autres, en fait, malgré nos imperfections, on s'encourage les uns les autres et on reste chaud. Mais si on s'isole, on se refroidit. Notre foi s'atrophie, on commence à développer des idées bizarres, etc. Ça, on va pas bien. Mais il y a une autre conséquence. C'est que, alors je reprends, mais là vous voyez, tous les charbons sont reliés les uns aux autres, donc ils restent chauds. Bon, il y en a un qui est parti. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, il y en a un qui reste tout seul là. Qu'est-ce qu'il va devenir lui? Il va se refroidir aussi. Ça veut dire que si moi je m'en vais, je vais me refroidir, mais du coup d'autres aussi vont se refroidir parce qu'ils ne sont plus reliés à l'ensemble. C'était pour dire les conséquences de s'isoler, c'est des conséquences pour moi et pour les autres, pour moi et pour l'Église, comme toujours. Pour terminer là-dessus, et je pense que ça fait partie des... Il est dit, le fin lin sont les œuvres justes des saints, dans Apocalypse 19. Hein. Ça en fait partie, je pense. La parole insiste beaucoup sur les uns les autres. Et dans l'épître aux Éphésiens, je vous ai fait grâce aussi de cette lecture, parce qu'il faut tout lire, mais suite à la lecture que j'ai lue sur le corps, après il développe les uns les autres, les relations. Mais une des applications, par exemple, Jésus, il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais il a dit aussi, ce que vous faites en mon nom à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Vous connaissez ces paroles de l'évangile de Matthieu. Donc quelque part, Jésus, il se substitue à une personne pour dire tu as fait quelque chose à une personne, c'est à moi que tu l'as fait. Quelque part, comme il met dans les deux sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je vais aller visiter mon frère ou ma soeur, je vais aller lui rendre visite, prendre un café avec elle parce que je pense que ça pourrait lui faire du bien. Il se passe deux choses. D'abord, ça veut dire que c'est Jésus qui va la visiter. Alors ça peut que lui faire du bien. Mais en plus, ça veut dire que moi, je vais visiter Jésus. Parce que Jésus, il prend la parole dans les deux sens. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Si vous faites ce que vous faites en mon nom, un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Et donc, tout d'un coup, vos petites visites là qui vous paraissaient tellement insignifiantes, vous vous rendez compte du changement de dimension. En fait, c'est Jésus qui va visiter une personne là, de l'église qui lui est chère. Et en même temps, je vais visiter Jésus. En fait, la vie de l'église, c'est beaucoup ça. Hein. Je ne vais pas détailler, mais je suis sûr que si on vous demandait des témoignages, un dimanche, si on vous demandait des témoignages à ce sujet, vous pourrez raconter chacun combien des petits gestes insignifiants fait par un frère ou une sœur à un moment donné, au bon moment, le bon geste, quelque chose d'insignifiant que la personne ne s'est pas rendu compte, parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, hein, dans notre bénéfice, mais ça a vraiment changé votre vie. Vous pouvez y réfléchir, peut-être vous aurez des témoignages à donner. Hein, et c'est pour dire, voilà, des relations qui paraissent pas si importantes, elles peuvent avoir un grand impact parce que Jésus est présent. Et donc ainsi, par la grâce de Dieu, moi j'ai pleinement ma part dans la beauté de l'Église. Et je terminerai avec une dernière partie en lisant un autre texte pour montrer une autre image. Pour dire, j'ai intitulé la partie « Quand ça va pas trop bien ». Je ne sais pas, peut-être ça arrive. Dans beaucoup d'églises, ça arrive. Des fois, ça ne va pas si bien que ça. Et quand ça ne va pas trop bien ? Alors, je vais lire un texte qui parle d'une église où ça ne va pas trop bien et en retirer juste deux, trois exhortation. Je lis dans Jacques, chapitre 5, verset 13 à 20. Je fais juste un petit saut à un moment donné. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il heureux ? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église, ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera le malade, le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Mes frères, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, rappelez-vous ceci, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. Dans ce texte, on voit une église où il y a des personnes qui sont bien, c'est vrai, mais il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont commis des péchés. Il y en a qui s'éloignent. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Que ceux qui sont heureux, eh bien, ils la partagent cette joie, qu'ils chantent. Et ça, c'est important. Quand on va bien et qu'on a de la reconnaissance, dire sa reconnaissance au Seigneur, partager sa joie. Parce que d'autres en ont besoin. Mais, pendant ce temps, il y a quelqu'un qui souffre. Alors, il n'est pas dit que celui qui souffre reste chez lui et se cache, pour ne pas démoraliser les autres. Mais, qu'il prie. Quelque part, je pense que ça passe dans le culte, ceux qui chantent leur joie en même temps que ceux qui expriment leur souffrance. Et, même plus loin, ne pas se cacher pour souffrir, au contraire, c'est quelque chose à partager. Le dire à Dieu, oui. Le dire à ses frères et sœurs. Parce que si on cache la souffrance, elle ne guérit pas. Mais si on la partage, elle peut guérir. Et c'est pour ça que aller aussi à la rencontre de ceux qui souffrent, c'est moins agréable, mais c'est très utile. Il est parlé de ceux qui sont malades et de se remuer debout. Alors le verbe malade, c'est asthénos, le terme malade, là c'est celui qui est asthénos, ça devient asthénique, celui qui est faible. Alors ça peut être qu'il y ait une maladie, ça peut être une maladie spirituelle aussi, c'est celui qui est faible. Et quel est le but là ? Le but c'est qu'il soit relevé. Autrement dit, qu'il soit en chemin. Alors, je vous donne une compréhension du texte, il y en a d'autres. Mais quelque chose d'important, c'est qu'à un moment donné, vous, ou votre frère, ou votre sœur, on passe par des moments où on est faible, pour des raisons physiques, morales, spirituelles, circonstances, etc. On est faible. Et en fait, on pourrait, étant faible, on pourrait tomber. Mais c'est pas sûr qu'on va tomber, parce qu'on peut aussi être relevé. Et c'est là où l'Église a vraiment sa place. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui est faible, mais il est dit qu'il appelle les anciens qui prient pour lui. Autrement dit, on ne reste pas non plus seul avec ses faiblesses, mais parce qu'il y a un enjeu pour l'Église. Vous avez déjà entendu que la résistance d'une chaîne, c'est pas la résistance de la somme des maillons. C'est la résistance du maillon le plus faible. Autrement dit, s'il y a un maillon qui est faible, la chaîne est faible, même si c'est une chaîne très forte. Et de même, s'il y a un membre de l'Église qui est en passe de tomber, c'est toute l'Église qui est en danger. C'est pour ça que, quelque part, elle s'appelle cette solidarité. On est tous concernés. Et là, l'enjeu, c'est, il va être relevé. Et s'il a commis des péchés, ça lui sera pardonné. Il va être relevé, remis debout. On peut être malade, physiquement, et être debout, en route. On peut aussi être en bonne santé physiquement et ne plus être en route. Être en passe de tomber. Donc voilà, là c'est aussi pour souligner l'importance de l'Église. Même le Seigneur, il a dit, dans ça c'est 1 Corinthiens 12, hein, que dans le corps on est différent, mais il a choisi de donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Quelque part. Je donne une image, donc j'ai pris celle de la chaîne, hein, j'avais prévu d'en donner une autre, sauf que je n'ai pas pu passer la vidéo parce que des problèmes de compatibilité. Mais bon, on a fait une petite expérience là. Donc il y a deux équipes qui se sont affrontées à la course, donc c'est une expérience qu'on a faite, c'était avant-hier je crois, et qu'on aurait pu faire ici, mais il y a une équipe constituée d'enfants, qui se reconnaîtront, et puis trois enfants, puis une équipe de deux adultes, avec un tout petit. Et on a fait une course. Et la première course, devinez qui a gagné? Les enfants. Pourquoi est-ce qu'ils ont gagné? Parce que? Eh bien non, ils n'étaient pas plus rapides. Parce qu'en fait, j'y suis sur la photo, je suis encore rapide moi, malgré mon âge. Et ils n'étaient pas plus rapides. Mais en fait, ils étaient homogènes. Ils n'avaient pas qu'à être lents. Donc ils ont gagné. Alors que le deuxième groupe, eh bien, il y avait un tout petit qui forcément courait plus lentement. Donc les grands, ils sont obligés de se mettre à la vitesse du plus petit. Mais après, on a refait la course parce qu'on n'était pas très contents d'avoir perdu. Et alors, ce qu'on a fait, donc en fait, je suis avec mon frère, hein, qui est aussi le frère de Lucie d'ailleurs, hein, que vous voyez sur la photo. On a porté le petit. Et ça faisait un point en plus, je vous l'accorde, mais on a quand même gagné la course là. On était plus rapide. Et pourquoi je dis ça? Parce que, ça reprend l'image précédente, mais dans l'Église, en fait, on va à la vitesse, quelque part, des plus lents. Et je ne vais pas viser des personnes, parce qu'en fait, les plus lents, on est chacun lent dans un domaine particulier, ce que je veux dire, on a tous nos points faibles. Et donc, ça, il faut l'admettre. Hein, et donc, plus, quelque part, on prend soin des faibles, plus on avance tous ensemble, quitte à devoir porter les plus faibles. Et encore une fois, je précise, les plus faibles, c'est à la fois mon frère et c'est à la fois moi, parce qu'on est chacun faible dans un domaine particulier, dans des périodes particulières. Donc c'est pas pour viser l'un ou l'autre, mais on a tous, voilà. Donc tous, à un moment donné, il faut pouvoir porter son frère ou sa sœur. Et donc ce texte, il parle aussi, donc c'est un collectif, et de la vie dans la lumière. Hein. Il a dit « confessez vos fautes ». Bien sûr, pas à tout le monde, pas n'importe comment, il faut un cadre. On n'a pas à tout dire à tout le monde, c'est pas bon du tout. Dans un contexte approprié, le dire à la bonne personne, mais ne pas rester seul avec ses péchés. Parce que là aussi, si un membre garde ses péchés, tout le corps en souffre. Donc, bien sûr, il faut confesser ses fautes au Seigneur qui nous purifie, mais si on a besoin d'aide, il faut pouvoir trouver quelqu'un de confiance. Je suppose que dans cette église, il paraît des anciens, hein, je suppose qu'il y a des personnes à qui on peut confier dans un cadre approprié des fautes. Mais ne pas rester à être rongé de l'intérieur. Parce que nous, on va être malade, mais toute l'Église va être malade. Donc le pire, c'est l'hypocrisie du, entre guillemets, bon chrétien qui fait semblant. Qui fait semblant que tout va bien, alors qu'en fait, il cache des péchés. Qui fait semblant que tout va bien, alors qu'en fait, il est profondément triste à l'intérieur, mais qui n'ose pas le dire. Alors il n'a que des prières de joie et de reconnaissance, parce qu'il n'ose pas dire que, aujourd'hui, je suis vraiment triste. Donc ça c'est un encouragement, hein, la vie collective, hein, à pouvoir exprimer sa joie et pouvoir exprimer ses peines et pouvoir exprimer ses fautes. Et puis je termine avec, dans ce texte il y a ça c'est la fin du texte, je vous le remets, il y a ce petit paragraphe un peu étonnant, et là on voit, si l'un de vous s'est éloigné de la vérité et qu'un autre l'y ramène, Rappelez-vous, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égare, le sauvera de la mort et obtiendra le pardon d'un grand nombre de péchés. En fait, ce texte est magnifique, mais moi, quand je le lis, j'ai l'impression que ça parle de la parabole du bon berger. Le bon berger qui va chercher la brebis perdue. Et c'est vrai, mais sauf que là, le bon berger, c'est qui? C'est nous, chacun de nous. Tout d'un coup, là, le Seigneur Jésus, quelque part, il est là, mais il se situe dans le cœur du berger. Mais le berger, c'est un berger délégué. C'est vous, c'est moi. Et tout d'un coup, on est investi de cette mission de faire attention. Parce que si quelqu'un s'égare, on peut le voir, on peut le ramener, qu'est-ce qui va se passer? On aura sauvé quelqu'un de la mort. Et voilà, je trouve ça beau que le bon berger nous investisse cette mission. Et bien sûr, c'est lui qui va agir dans les cœurs. Et c'est lui qui va agir dans le cœur du berger comme dans le cœur de la brebis. Mais voilà, je trouve ça vraiment beau. Et ça permet de se rappeler que le premier texte qu'on a lu, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, on voit le Seigneur, c'est lui qui rend belle son épouse. Et je relis une expression. Il se présente à lui l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut. On la nourrit, on en prend soin. Ça parle des soins du Seigneur Jésus pour son Église, et ça nous rappelle bien sûr que voilà, dans cette Église imparfaite, il y a quelque chose qui doit régner, c'est cette grâce de Jésus. Et oui, il y a des fautes, mais on n'oublie pas qu'il y a la croix. Il est mort sur la croix. Pour sûr, on pardonne nos fautes et pour nous réunir. Alors, je vais m'arrêter là. Et pour conclure, on peut retenir peut-être une chose ou deux, en fonction de vos sensibilités, vous ne retenez pas la même chose, mais que Jésus, en tout cas, il aime passionnément sa fiancée, l'Église. Que je fais partie de cette épouse. Je fais partie du corps de l'épouse, on pourrait dire. J'ai besoin des autres. Et ils ont besoin de moi. Et donc, pour vivre le plan de Dieu, je me rappelle que ce plan, il est bon. Le plan de Dieu est bon. Je dois garder ça à l'esprit parce que des fois, le doute survient. Non, le plan de Dieu est bon. Et pour le vivre, eh bien, je dois faire confiance à Dieu. Et plus à Dieu qu'au magazine actuel. Pouvoir détourner les yeux de mon nombril ou de mon miroir, c'est souvent le cas, et pour les porter autour de moi, et surtout sur le Seigneur. Ça me rappelle que le Seigneur, il vous donne à chacun de vous une vocation, mais une vocation unique, une vocation passionnante, quelque chose de vraiment, vraiment beau à vivre, et dont on voit la finalité. La finalité, c'est l'œuvre du Seigneur qui se présente, cette épouse, parfaite en beauté. Et ça, c'est la fin de l'Apocalypse, c'est l'apothéose. Voilà, je vais prier simplement. Seigneur, notre Dieu, réunis en église devant toi, on veut encore te louer. Notre Dieu, on reconnaît que tu es un Dieu plein de sagesse et plein d'amour. On veut te remercier d'être inclus dans ton plan, d'être inclus dans ton église. Seigneur, on veut te remercier de ce que tu fais pour ton église. Et Seigneur, notre Dieu, ma prière ce matin, je voudrais te prier pour chaque personne ici présente, pour que chacun de nous, on soit à l'œuvre dans cette église. On participe à ces actes justes qui font le fin lin de la robe de l'épouse. Chacun de nous, on utilise les dons que tu nous as confiés pour le bien de ton épouse. Seigneur, aide-nous à avoir cette vision juste des choses. Et puis on veut encore te prier que tu fasses vibrer notre cœur de ton amour. Et que ça déborde vraiment autour de nous, Seigneur Jésus. Et on veut encore te remercier parce qu'on sait que cette œuvre que tu as commencée, tu l'achèveras. On sait que tu as dit que rien ne prévaudra contre elle, l'Église, puisque c'est toi qui l'as bâtie. Alors à toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.